Aujourd'hui, on va continuer dans notre étude de la lettre de Paul aux Romains. Et je vous invite à vous tourner donc au chapitre 4. Prions. Seigneur, merci parce que ta parole, tu nous le promets, ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet, Seigneur. Et notre prière, c'est que nos cœurs soient ouverts pour que ce que tu veux nous dire ce matin trouve un écho et se manifeste par un véritable changement dans nos façons de voir les choses, mais aussi dans nos cœurs, dans nos comportements. Merci Seigneur de te glorifier. Merci de nous parler ce matin par ton Esprit Saint. Lui qui a inspiré ta parole, Seigneur, il nous la redonne en quelque sorte, il nous la retraduit de la page des textes que tu nous as laissé avoir à cette relation directe que nous pouvons avec toi avoir avec toi par ta parole, Seigneur. Sois béni, sois glorifié dans nos cœurs. Nous te remettons toutes les églises de cette ville, Seigneur, qui t'adorent en esprit et en vérité, ceux qui veulent t'honorer, ceux qui cherchent à annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Par le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. On a rapidement vu nous sommes tous, autant que nous sommes, des pécheurs. Tous les hommes, on le verra plus loin, parce que le péché est entré dans la race humaine, tous les hommes sont pécheurs. Ils ne sont pas pécheurs parce qu'ils pêchent, mais ils pêchent parce qu'ils sont pécheurs. Vous voyez la différence ? C'est dans notre nature pervertie par le péché que de pécher. Et il suffit de se penser à nous-mêmes, parce que toutes les choses que nous faisons sans vouloir les faire, celles que nous voudrions faire et que nous ne faisons pas, pour savoir qu'en fait, il y a un problème. On a tous ce problème. Et Paul s'adresse à un auditoire juif, mais aussi à un auditoire païen. Donc il s'assure de montrer à tous qu'il y a ce problème du péché en chaque homme. Des fois, on pense que c'est les autres qui sont des pécheurs. Et on verra qu'on le rappellera souvent quand on voit le péché qu'on est capable de faire dans d'autres personnes, ce péché nous semble encore plus terrible, plus gros. Et il a terminé le chapitre 3 en nous expliquant qu'en fait, il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que bien que nous soyons péchés et tous que nous soyons loin de la gloire de Dieu, Dieu est intervenu dans sa grâce, dans cette faveur non méritée. Il nous dit qu'en fait, au chapitre 3, verset 23, la mauvaise nouvelle, il la résume en disant « Il n'y a pas de différence entre n'importe qui, entre tous les hommes, nous sommes tous des pécheurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est aussitôt le verset 24, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. D'autres disent par le moyen de l'expiation ou de la propitiation du sacrifice offert par Jésus-Christ. » Et il enfonce le clou en disant au verset 28, « L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » C'est le verset 28. Donc, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi indépendamment des œuvres de la loi. Autrement dit, Dieu nous considère comme justes, pas parce que nous obéissons à des lois, nous suivons des rituels, nous avons quelque chose de bon en nous. Non, Paul vient de nous montrer que nous sommes tous zéro de zéro, nul de nul au niveau de la justice de Dieu, mais Dieu nous déclare juste. Et cette histoire de déclaration, on sait que le salut, il est, on l'a déjà évoqué, il a plusieurs aspects. Il y a un aspect de déclaration, il y a un aspect de transformation, et plus tard, il y aura un aspect de glorification. La justification, c'est un acte légal. Mais je disais la semaine dernière, Dieu attrape le poisson et après il le nettoie. Et le nettoyage du poisson, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Il nous transforme de plus en plus à l'image de son fils Jésus. C'est un processus long, pénible, qui a des hauts, des bas, des retours en arrière. Mais ce qui compte, c'est qu'on sente que quelque part, on va vers quelque chose de mieux, vers la ressemblance à Jésus-Christ. Et puis la glorification, c'est qu'on n'aura même plus à parler de péché quand on sera en présence de Dieu, et on sera tous dans la joie, il n'y aura plus de culpabilité, il n'y aura plus d'efforts pour faire mieux, parce qu'on sera avec Dieu, devant Jésus-Christ, et la Bible nous assure que ce sera absolument formidable, pleinement satisfaisant, plus que pleinement satisfaisant, énormément, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut penser. Et je vous invite à essayer de réfléchir à vos aspirations profondes quand vous voyez des choses belles, des choses en paix. Toutes ces choses-là, dites-vous qu'elles vont être complètement réalisées au 10 millions de fois plus quand vous serez en présence de Dieu. On a du mal parce qu'on est pris par le présent, par les urgences, la tyrannie de l'instant. Mais c'est bon de prendre du temps et de penser à ce que ça va être. La lecture de la parole, la méditation, notamment de passages comme les psaumes ou d'autres passages, ça fait du bien, ça apaise le cœur. L'écoute de beaux chants chrétiens nous fait du bien, vous fait penser à Dieu. Il y a une statistique qui nous dit qu'en fait, une statistique récente qui dit qu'en moyenne, il y en a pour qui c'est pire, mais en moyenne, si vous avez un smartphone, surtout les versions où vous pouvez recevoir vos emails, vos Facebook, vos messages, etc., vous les regardez, votre petit appareil, votre petite plaquette électronique, 150 fois par jour. Alors c'est sans doute des statistiques qui viennent des États-Unis où ils sont en avance, entre guillemets, sur nous. Mais j'entendais quelqu'un qui disait, imaginez que 150 fois par jour vous pensiez à Dieu. 150 fois par jour vous sortez votre tablette en pensant à Dieu. Ou votre tablette vous parle de Dieu. Votre tablette vous donne des versets, des psaumes, vous donne des chants. Rien ne nous empêche de penser comme ça à Dieu. Et c'est vrai que c'est pas évident. Cette idée d'acte légal, j'ai une illustration relative à ce que j'ai vécu. J'ai habité les États-Unis pendant 15 ans. C'est là que mes deux enfants sont nés. Et à l'époque, quand j'étais allé là-bas, si je voulais avoir la citoyenneté américaine, je devais renoncer à la citoyenneté française. Et je ne savais pas pour combien de temps je serais là-bas. Et j'aime bien la France, je suis fier d'être français. J'avais dit non, s'il faut choisir, je reste français. Je payais des impôts, mais je n'avais pas le droit de voter. Taxation sans représentation. C'est ce qui avait conduit les Américains de l'époque de l'occupation anglaise à se révolter contre les Anglais. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, les choses ont changé, les lois changent en matière d'immigration. On ne sait jamais sur quel pied danser, parce qu'il suffit qu'un gouvernement change et il veut durcir les choses, ou au contraire, il veut les adoucir. Et il est arrivé un moment où j'aurais pu demander la double nationalité, elle aurait pu m'être accordée. Mais je n'étais pas au courant, je ne le cherchais pas. Mais imaginons que j'ai demandé à recevoir la nationalité américaine. Il y avait un processus à suivre, des formalités, il fallait que je remplisse des formulaires, que je trouve des gens qui pouvaient témoigner que je vivais une vie honnête, que j'étais un bon citoyen sans être citoyen américain encore. Et j'avais un travail, je travaillais pour la compagnie des téléphones, je fréquentais une église. Si j'avais fait cette demande, je pense qu'on aurait accepté de me donner la citoyenneté américaine. Et du jour au lendemain, j'aurais reçu un document me disant « Monsieur Pierre-Paul Joseph Petrignani, le gouvernement des États-Unis, par ici, vous accorde la nationalité avec tous les droits et les devoirs qui s'y rattachent. » Et donc, ça aurait été une décision légale. Du jour au lendemain, j'aurais été américain. Mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, j'aurais été américain. Dans la façon de vivre, dans la façon de réagir, j'aurais toujours préféré un bon camembert plutôt que du cheddar, jaune ou orange. J'aurais toujours préféré un bon rosé de Provence à manger un poulet avec du Coca-Cola, en buvant du Coca-Cola. J'aurais été américain légalement, mais il aurait fallu que je reste là-bas pour en venir à avoir tous ces goûts et toutes ces habitudes changées. Et de la même façon, Dieu nous déclare chrétiens, sauvés, acceptés par lui, justifiés, mais ça va prendre toute une vie pour être transformé. Donc je n'ai jamais demandé à être américain. Et on me dit que le temps que j'ai passé là-bas, ça m'a quand même transformé. Et je plaisantais avec ma mère quand je revenais, je lui disais « Mais tu sais, je parle toujours le français sans accent, je n'ai pas de problème. » Et elle avait horreur de ça, elle s'énervait quand je faisais ça. C'est ce qu'elle redoutait, que je devienne totalement américain. On est justifié par la foi. Et c'était quelque chose que Paul disait aux païens, les païens étaient tout contents. Mais l'autre auditoire, celui des Juifs, ils n'étaient pas contents du tout. Parce que pour eux, ils se sentaient privilégiés. Ils avaient reçu les 10 commandements, ils avaient reçu les oracles de Dieu, et ils ne voyaient pas pourquoi il ne fallait. Maintenant, on n'avait même plus besoin de suivre la loi pour être accepté par Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Voir les autres recevoir quelque chose pour lesquels on a durement travaillé. Un exemple. Si vous faites des études de médecine, vous savez que vous allez, ou si vous avez connaissé des étudiants en médecine, vous savez qu'on va les faire passer par la période de l'internat, où ils vont travailler 20 heures par jour pendant 7 jours. C'est ridicule, c'est dangereux, parce que c'est des gens épuisés qui vous reçoivent aux urgences. Mais pourquoi ça se fait? Parce que ceux qui sont en charge de décider du système médical, eux-mêmes, ont dû être internes et travailler 20 heures par jour pendant 7 jours. Je vois des personnes qui connaissent le milieu dire qu'ils sont d'accord. Et donc les Juifs, eux-mêmes, ils ont dit « Nous, on est obligés de suivre la loi, etc. » Et puis maintenant, tu dis que n'importe qui, il suffit qu'ils disent « Je crois au sacrifice de Jésus-Christ, il est sauvé. » Ça ne tient pas la route, c'est scandaleux. Alors Paul, qui était lui-même un hébreu des hébreux, comme il le dira lui-même dans ses épîtres, qui était un juif de premier ordre, il faisait partie de l'élite des juifs, il était sur le Sanhédrin, ce gouvernement, ce groupe de 70 sages juifs qui régissaient les affaires religieuses en Israël. Lui qui avait été enseigné par les plus grands rabbis de l'époque, les plus grands rabbins, Gamaliel, qui était jusqu'à ce jour est reconnu comme un des grands rabbins de l'histoire du peuple juif, Il avait toute cette culture, il savait de quoi il parlait, et là il va être sans pitié pour ses corélégionnaires, pour ses amis juifs, ses frères juifs. Il va avoir recours à deux de leurs plus grands héros dans la foi juive, Abraham lui-même et David, le roi David, l'auteur des psaumes. Et il va utiliser ces deux exemples puissants pour leur montrer que même eux ont été justifiés par la foi. Et ça, c'est plus fort que le roquefort, pour parler comme un Français. C'est plus fort que le cheddar. C'était incompréhensible. On va lire les versets 1 à 15, si vous le voulez bien. Et on ne va pas courir le marathon, mais on va se lever pour faire un peu d'exercice, pour recevoir la parole de Dieu. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre ? Je lis dans la version second 21, chapitre 4 de Romains. Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ? Ou bien est-il également pour les incirconcis, c'est-à-dire pour les juifs ou pour les païens ? En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte ? Était-ce après ou avant sa circoncision ? Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le père des circoncis qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était encore incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la loi, la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. En effet, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. On va faire une pause là, je vous laisse vous asseoir. Circoncis, incirconcis, on a dit que ça désignait les juifs et les païens. La circoncision, vous savez sans doute ce que c'est, c'était l'ablation du prépuce chez les enfants mâles, les bébés garçons. Et c'était un signe, on le verra plus loin, qui avait été donné à Abraham et à sa descendance comme un signe d'appartenance à ce peuple de Dieu, parce que c'était un symbole de renoncer à la chair. La chair, c'est pas seulement les muscles et les vaisseaux sanguins et la bidoche, en quelque sorte. La chair, c'est notre vieille nature. Mais c'était un symbole, lorsqu'on enlevait le prépuce, qu'on disait, je renonce aux choses de la chair. Et ce symbole, les Juifs en étaient très fiers. C'est intéressant de savoir que les prescriptions de la loi indiquaient que ça devait être fait le 8e jour après la naissance. Et qu'incidemment, la médecine moderne a découvert que c'était en fait le meilleur moment pour que la cicatrisation se fasse. La Bible sait mieux que les hommes ou les chercheurs ce qui est vrai. Et ça, c'est une petite parenthèse pour parler de la puissance de la Bible. Il y a même tout un aspect de la médecine moderne qui recherche dans la Bible des remarques d'ordre médical pour voir s'il y a une justification scientifique. Et il y a beaucoup de choses de la sorte. Il leur dit donc circoncis, incirconcis, et un mot qui revient aussi, c'est le mot de compte, la comptabilité. Il y a des comptables parmi nous ? Sébastien est triste parce qu'il aimerait bien pouvoir passer la comptabilité à quelqu'un d'autre. Mais Paul, il s'y connaissait en comptabilité, et là, le mot revient dans le passage que nous venons de lire, il revient 8 fois, il va revenir encore 3 fois avant la fin du chapitre 4. C'est compter comme justice, c'est quelque chose qui est du domaine de ce que l'on met sur votre recueil d'informations en banque. Vous voulez voir combien vous avez de disponibles, vous allez faire un relevé de compte, vous allez demander un relevé de compte ou y accéder en ligne. Si quelqu'un vous veut du bien ou vous doit des sous, ils vont porter peut-être par virement quelque chose sur votre compte. Et Paul se plaît à expliquer qu'en fait, c'est une affaire d'écriture. Encore une fois, c'est un acte légal que cette justification qui est mise sur notre compte. C'est comme si Dieu a une longue liste de ce que nous faisons et ne nous faisons pas. Et qu'il tient une comptabilité, et quand on vient à lui par la personne de Jésus-Christ, il n'y a plus de dette, ça a été payé par quelqu'un d'autre, et nous sommes acceptés sur cette base. Et là, on va suivre un peu la logique de Paul. Et je reconnais avec vous que quand on lit ça rapidement, on a un peu le tournis. On se dit, mais circoncis, hein, la foi, la loi, les œuvres. Abraham, c'était l'ancêtre des Juifs. Il était décrit comme étant issu d'une famille de païens. Il rendait... Les pères d'Abraham et son oncle rendaient un culte à d'autres dieux. Ça, c'est dit dans Josué 24. Et Paul dit, en substance, dans les premiers versets, si Abraham avait été sauvé, si, disons qu'il était justifié par ses œuvres, c'est-à-dire que Dieu l'ait accepté sur la base de ce qu'il accomplissait, de son travail, de sa générosité, des choses qu'il faisait pour venir en aide aux autres et pour glorifier Dieu. Si c'était le cas, alors Abraham aurait des raisons d'être fier, de se vanter. Aujourd'hui, on va y avoir un vainqueur du marathon de Cannes, de Nice à Cannes, et probablement il viendra des hauts plateaux de l'Est africain. Alors c'est vrai qu'il pourra dire « je m'entraîne beaucoup », mais en fait c'est aussi peut-être parce que dans ses gènes, les gens devaient courir à des hautes altitudes et il est héritier, les gens ont tendance à dire « oui, j'ai gagné cette médaille d'or parce que je me suis entraîné beaucoup ». Et si Abraham avait été déclaré juste parce qu'il avait fait plein de bonnes choses, à ce moment-là, il pourrait dire, oui, ben c'est parce que j'ai travaillé dur. Et puis, Paul pose cette question. En effet, que dit l'Écriture ? Soulignez cette phrase dans votre Bible, si c'est votre Bible personnelle. Si c'est une Bible empruntée, vous pouvez le faire au crayon. Peu importe. Toujours une excellente question à se poser. Que dit l'Écriture ? Aujourd'hui, on a tendance à aller voir ce que dit Yves Calvi dans les émissions de radio, de télé, etc. Voir qu'est-ce que dit le journal, qu'en dit BFM TV. Et on a nos propres philosophes qu'on aime bien écouter. Et puis, on va voir ce qu'ils disent. Alors qu'en fait, c'est pour connaître la vérité, c'est la Bible. Et pour savoir qu'est-ce qui est vrai, il suffit d'aller voir ce que dit la Bible. Aujourd'hui, on nous dit que la vie d'un enfant ne compte pas jusqu'au 9e mois lorsqu'il passe le canal vaginal et qu'il sort et qu'il fait un premier cri, qu'avant, c'est pas grave, il peut. Son existence légale n'existe pas. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que dès notre conception, nous sommes des êtres merveilleux. Nous sommes des êtres. Nous ne sommes pas un amas de cellules organisées par hasard. C'est un exemple parmi d'autres, mais toujours se poser la question, que dit la parole, que dit l'Écriture ? Et là, il va aller voir dans la Genèse 15, versets 1 à 6. D'abord, l'Éternel avait fait une grande promesse à Abraham. On lit ça dans la Genèse 12, le début du chapitre 12 de la Genèse, L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Cette grande promesse, et puis un peu plus loin, on lit dans la Genèse 15, après ces événements, qu'on ne va pas décrire, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes, « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense, elle sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Puis une phrase fantastique, une base de la justification par la foi. « Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. » Ce verset qui est cité ici, il est cité aussi dans Galates 3, 6, dans Jacques 2, 23. C'est un élément clé. Notez bien qu'il n'est pas dit qu'il crut à la promesse que Dieu lui avait faite, il crut en l'Éternel. Croire en quelque chose, c'est plus que croire à quelque chose. C'est prendre cette chose, ce phénomène, cette personne, comme une base de votre vie. Abraham a cru à l'Éternel et Dieu mit ça à son crédit. Sur son compte en banque céleste, il a marqué « justifié ». Pourquoi ? Parce qu'il avait fait confiance dans la promesse que en l'Éternel, et notamment cette promesse que toutes les nations de la terre allaient être bénies par le fruit de ses entrailles. On a du mal à imaginer que ce n'était pas facile d'être Abraham. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a deux écritures. Au début, c'était Abraham, A-B-R-A-M, qui veut dire père de nombreuses personnes. Abba, c'est le père. Et puis qu'après, il allait devenir Abraham. Le H-E, c'est souvent le signe d'une quelque chose de spirituel. Ça représente souvent Dieu. Donc Dieu va venir dans son nom. Et il va être maintenant une bénédiction pour l'éternité. Et donc, imaginez que Abraham allait au café du coin prendre un expresso et il rencontrait des nouvelles personnes. On lui dit comment tu t'appelles ? Père d'une multitude. Ah, waouh ! Et tu as combien d'enfants ? Aucun. Ah bon ? Il vient faire la connaissance du papa de plein qui n'a aucun enfant. Et puis, les choses deviennent plus difficiles parce que maintenant, il lui dit une bénédiction pour l'éternité, pour toutes les nations. Et il était la risée des gens parce qu'il n'avait toujours pas d'enfant. Mais il s'était dit, si Dieu le dit, ça va se passer. Est-ce que votre Dieu est un grand Dieu ou est-ce que c'est un petit Dieu ? Si c'est un grand Dieu, vous allez avoir confiance dans ses promesses, dans sa parole. Si votre Dieu il est petit, quand les choses vont bien, vous allez penser à lui. Mais quand ça va mal, vous allez dire « Oh, ben, peut-être qu'il m'a oublié » ou « Peut-être qu'il n'est pas si puissant que ça » ou « Il a d'autres planètes à gérer ». Il a tout eu. Quand on regarde les étoiles, il y en a des choses à régler. Abraham, il crut en l'Éternel et il s'est dit, si Dieu l'a dit, ça va se passer. C'est la foi. C'est croire que les choses qu'on ne voit pas encore sont réelles et qu'elles vont arriver. Et Dieu nous invite à avoir cette foi d'Abraham. On vit dans un monde où on part faire un jogging et on se retrouve assassiné, carbonisé. J'entendais les réactions d'une personne de ce village où s'est passée cette tragédie qui disait oh « ben, de toute façon, maintenant, on vit comme des fous, plus rien n'a de sens. » Et c'est le sentiment de beaucoup de personnes dans le monde. Mais malheureusement, c'est aussi trop souvent le sentiment de beaucoup de chrétiens. Au lieu de dire non, il y a un Dieu qui va mettre les pendules à l'heure, comme on l'a fait la semaine dernière, un Dieu qui va juger les mots, les mauvaises actions d'une façon parfaite, avec l'éternité en vue, on se dit oui, c'est vrai, on n'est qu'une poignée de chrétiens, et c'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Mais Dieu est un grand Dieu, et sa parole nous promet des choses fantastiques que nous pouvons embrasser, que nous pouvons voir comme si elles existaient déjà. Amen. Abraham crut en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. C'est repris encore une fois dans plusieurs passages. Versets 4 et 5, il fait une opposition entre un salaire et un don. Si vous êtes employé, si vous avez un travail, ce que je vous souhaite, et on prie pour tout le monde, pour que ceux qui sont au chômage trouvent un emploi, vous allez vous mettre d'accord avec votre employeur, que ce soit un CIS ou un contrat d'emploi temporaire ou un contrat permanent, Dans ce contrat, vous entendez avec votre employeur pour donner un travail, fournir un travail plutôt, en échange d'un salaire. On reçoit de l'argent, un salaire, c'est recevoir de l'argent en paiement de son travail. Vous n'allez pas dire, lorsque vous recevez votre chèque à votre employeur, « Oh, merci, monsieur le patron, c'est trop gentil, qu'est-ce que vous avez bon cœur. Oh, c'est comme Noël pour moi, je vois que vous avez envoyé le chèque, je l'ai reçu. » Vous pouvez exprimer de la reconnaissance, mais légalement, ça vous était dû. C'était quelque chose qui... C'était pas une faveur, c'était pas une grâce, comme on dit dans cette expression. Paul écrit, c'était quand on reçoit un salaire, c'est pas selon la grâce, mais selon la dette. Vous me devez tant, donc vous allez me payer. Par contre, les versets 5 à 8, il explique que il y a une autre logique qui est la logique du don. Du don de la grâce. La grâce, c'est recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est recevoir un don, pas parce que nous avons mérité de quelque façon que ce soit par notre attitude, notre aspect physique, notre héritage, notre famille. Recevoir un don simplement sur la base de la générosité de celui qui donne. Si je donne des bonbons à Emmanuel en disant « Tiens mon petit, je te donne un bonbon après le culte parce que tu es mignon, tu as été sage. » Ça ne va pas être vraiment un don. Il y aura quelque chose pour lequel je lui... Ce ne sera pas une grâce, je veux dire. J'aurai une raison de lui donner parce qu'il a été mignon. Par contre, si, je ne sais pas ce qui se passe en haut, mais le pire de ceux qui se comportent en haut, il y a peut-être quelqu'un qui est mal luné ce matin, Daphné, je ne sais pas, qui ne mérite vraiment pas de recevoir un bonbon, mais que je donne un bonbon, ça c'est la grâce. Ce n'est pas parce que celui qui reçoit mérite quelque chose, c'est parce que celui qui donne veut donner. Et c'est ce que Paul veut qu'on comprenne. Il prend l'exemple de David pour là aussi montrer que Abraham, il a été justifié par la foi et David, lui aussi, a été compté comme béni. Il a même été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Abraham a été à plusieurs reprises appelé l'ami de Dieu. Ce qui est formidable, c'est que Jésus est venu plus tard pour nous dire que nous étions ses amis si nous venions à lui. Les versets 7 et 8, c'est des versets tirés du psaume 32, écrit par David, après qu'il ait reconnu son péché d'adultère avec Bathsheba, qui était mariée à un certain personnage appelé Uri, que David a fait assassiner pour essayer de couvrir son péché, parce qu'il y avait un enfant qui résultait de cet adultère. Et puis il a caché cette ignominie pendant une année. Et puis le prophète Nathan l'a repris. Il a utilisé des images parlantes. Jésus utilisait souvent des images parlantes parce que souvent l'image, elle s'impose à votre esprit plus fortement que des paroles. Et le Saint-Esprit a inspiré Nathan pour imaginer cette histoire qu'il a racontée à David en disant « Il y avait un homme qui avait 1000 brebis. Puis il y en avait un autre, il n'y en avait qu'une seule. Et celui qui avait toutes ses brebis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voler la brebis de celui qui n'en avait qu'une seule. Quelle horreur, quelle honte. Et David s'est laissé prendre à ses émotions naturelles. Il a dit, c'est scandaleux. Celui qui a pris la petite brebis, il mérite de mourir. Et c'est là que Nathan lui a dit, tu es cet homme. Et d'un seul coup, David a réalisé qu'effectivement, il avait des centaines de femmes. On sait que son fils, Salomon, aura 300 femmes et 700 concubines, donc on arrive aux 1000 dont Nathan parlait. Et il avait volé Bathsheba de Uri. Et la bonne chose avec David, c'est que il n'avait pas essayé de se défendre à ce moment-là. On peut imaginer qu'il vivait dans une telle culpabilité. Il essayait d'être le roi plein de poésie, de sagesse, de puissance. Et en fait, il était rongé par ce remords, cette culpabilité. Il n'essaye pas de se défendre et il reconnaît que c'est lui. Il avait même dit que la personne qui avait volé la brebis méritait d'être punie 4 fois. Il rendra au quadruple la brebis. Et 4 des enfants de David vont être tués, le fils de Bathsheba qui ne va pas vivre, Amon, son premier-né, Absalom et Adonija. Quelque part, il avait lui-même décidé de la peine que méritait une telle attitude. Mais, qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 32 ? Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. On revient à la comptabilité. Vive les trésoriers, vive les comptables. Dieu ne compte pas le péché lorsqu'il est avoué, et là il se savait pardonné. David avait dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Tout crime, tout péché, toute mauvaise action, c'est un vice quant à soi-même, c'est un crime vis-à-vis de la société, et c'est un péché vis-à-vis de Dieu. J'ai péché contre l'Éternel. D'accord, mais il avait péché aussi contre Bathsheba. Il avait péché contre Uri. Non, l'important c'est qu'il avait en fait, en faisant ça, il avait péché contre l'Éternel. Nathan avait dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Le pardon n'efface pas les conséquences du péché. Le chagrin, le drame allait tourmenter le reste de la vie de David, mais sa culpabilité était partie. David n'avait rien fait pour mériter ce pardon. Il a mis sa foi en Dieu, il a confessé son péché. Et parce qu'il a cru en Dieu, Dieu pardonne son péché et ne le met pas à son compte. Et sur le compte de David, il y avait marqué « juste et béni ». Ami de Dieu. Plutôt « homme selon le cœur de Dieu » pour David. Donc, avec ces exemples, Paul nous montre qu'on ne reçoit pas la justification par les œuvres. Et puis on ne la reçoit pas non plus par l'observation de rituels. Les versets 9 à 12 qu'on a déjà lus, on a vu que la circoncision c'était devenu le rituel numéro 1 pour les Juifs. Et puis Paul, là il se montre sans pitié avec ses amis et frères juifs, il prouve en utilisant les Écritures, qu'Abraham a été déclaré juste bien avant d'être circoncis. En fait, 13 ans au moins avant que Dieu ne lui donne le signe de la circoncision. C'était un coup terrible pour les Juifs religieux qui étaient si fiers de leur rite de circoncision. Pour eux, ça définissait le Juif Et ça, l'incirconcision définissait le païen. Ce qui est terrible, c'est que si Abraham a été déclaré juste sans être circoncis, ça veut dire que la justification, elle est valable aussi pour les incirconcis. Elle a été valable pour Abraham incirconcis, elle est donc valable pour les païens. Quand on lit la... pour avoir un peu la comptabilité, quand on lit la Genèse 12, 1 à 5, qu'on a déjà regardé, il nous est dit qu'il reçoit la première promesse de Dieu qu'à travers lui, les nations de la terre allaient être bénies. On sait que c'est par l'intermédiaire et l'arrivée de Jésus-Christ qui prend le péché de tous les hommes qui l'acceptent. Il allait être une bénédiction pour l'éternité. Là, Abraham a 75 ans. Plus loin, il est dit, Genèse 15, 6, « Tu as cru en Dieu, ce sera porté, la justice est mise à ton compte. » Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Si on continue dans la Genèse, on arrive au chapitre 16, verset 16. Là, il est dit qu'Abraham a 86 ans lorsque Agar, la servante de sa femme, lui donne un fils, Ismaël. Là, c'est marqué, il avait 86 ans. À 99 ans, Genèse 17, 1, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Et puis c'est seulement au verset 10 du chapitre 17 qu'il institue le rite de la circoncision. Dieu institue ce rite. « Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous, avec ta descendance après toi. » Tout mâle parmi vous sera circoncis. Il a 99 ans au moins, Ismaël a 13 ans. Donc Abraham a été circoncis à 99 ans. Bref, la chronologie montre que c'est bien avant d'être circoncis de devenir ce que les Juifs appelleront juif, qu'il a été déclaré juste. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Dans la Genèse 15, il est incirconcis, il est déclaré juste, il devient le père de tous les incirconcis qui ont la foi. Ça, c'est le verset 11 de Romains. Dans la Genèse 17, là, il devient circoncis. La circoncision est un signe, ce n'est pas une cause de son pardon, de sa déclaration de justice. Romains 4, 11 dit que ça devient comme un signe ou un sceau de justice, le signe de la circoncision. Et là, il est aussi le père de tous les circoncis qui ont la foi. Donc, il est à la fois le père des païens et des non-juifs. Cette circoncision, ça n'était qu'un signe extérieur. Tous les rituels sont de même nature. Le baptême, la Sainte Cène, votre présence au culte, votre participation à des études bibliques, votre participation au chant de louange, tout ça, c'est des signes qui n'ont aucune valeur si vous n'avez pas la foi en Christ. On a dit que le rite sans la réalité, c'est comme un vice. Que la réalité sans le rite, c'est comme une vertu. Le problème, c'est que la réalité, elle est appréciée seulement de Dieu. Dieu seul peut voir ce qui se passe dans votre cœur lorsque vous venez à l'église. Peut-être que vous venez là parce que votre épouse ou votre ami vous ont amené. Mais ce qui compte, c'est que Dieu voit votre cœur. Et le rite, le rituel, il n'y a que les hommes qui voient ça. C'est pour ça qu'on essaye de paraître religieux, bien souvent. On va dire, ce matin, quand j'avais mon temps de méditation avec Dieu, et ça, c'est quelque chose dont Dieu a horreur, c'est qu'on puisse être hypocrite en essayant de se faire passer pour quelque chose qu'on n'est pas. Il vaut mieux dire, ça fait une semaine que je n'ai pas pris un moment le matin parce que j'étais occupé ou j'ai des problèmes dans ma vie, je ne vois pas que Dieu intervient. On peut être réel avec lui, bien sûr, mais aussi avec les uns avec les autres pour s'encourager. Donc ce n'était pas par le rituel, et versets 13 à 15, ce n'était pas non plus par l'observation de la loi. Galates, le même Paul, va être brutal là encore avec les Juifs. Dans Galates 3, 17, 18, c'est le même auteur que la lettre aux Romains, Paul nous dit « Voici ce que je veux dire, un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. La loi, en fait, elle n'était là que pour montrer le péché, pour nous montrer notre besoin d'un sauveur. J'ai passé une radio de l'épaule la semaine dernière qui a montré que j'ai des problèmes dans un tendon. Ce n'est pas les rayons X qui vont me guérir. Les rayons X, ils sont là pour me montrer qu'il y a un problème. De même, la loi, elle n'est pas là pour nous rendre justes, pour nous permettre d'être acceptés, acceptables par Dieu. Elle est là pour nous montrer notre péché. Tu n'aimeras que ton Dieu avant toute chose. Est-ce que c'est toujours vrai dans ma vie? Tu ne tueras point. Là, j'ai jamais tué. Je ne me rappelle pas avoir tué quelqu'un. Mais Jésus viendra pour nous dire que, en fait, lorsqu'on dit du mal de quelqu'un, lorsqu'on dit des insultes, si on avait la possibilité d'appuyer sur un bouton pour tuer la personne sans qu'on ait de conséquences à vivre après, lorsqu'on dit du mal de quelqu'un, on serait prêt à détruire la personne. Et tout ça, cette loi, elle est là pour nous montrer qu'on n'est pas droit devant Dieu, qu'on a besoin d'aide. Et donc, on n'est pas... Là aussi, on peut voir dans le détail, lorsque la loi, elle a été donnée à qui? Elle n'a pas été donnée à Abraham. Elle a été donnée à Moïse, qui est un descendant d'Abraham. Et on peut faire le calcul avec les différents passages de la Genèse et de l'Exode et voir qu'en fait, c'est 430 ans plus tard. C'est le calcul que Paul avait fait. Et il rappelait, c'est pas par la loi qu'on est déclaré juste. Et pour, encore une fois, si vous avez toute votre vie essayé de mériter l'amour de Dieu, de mériter sa bienveillance, sa considération, son acceptation plutôt, et si vous réalisez qu'en fait tout ça c'était en vain, c'est terrible. Imaginez que toute votre vie vous êtes sur une échelle et vous essayez de monter les échelons les uns après les autres et vous pensez que en arrivant vous allez être enfin accepté par Dieu qui va dire bien joué, bravo, tu en as bavé, mais... Et en fait, vous apercevez que votre échelle, quand vous arrivez en haut, elle était appuyée contre le mauvais mur. Et qu'en fait, à côté, il y avait les gens qui disaient « Je crois à Jésus, à son sacrifice, je reconnais que je ne mérite rien, mais je viens les mains vides et je reçois sa grâce. » Et vous vous dites « Oh non, c'est pas possible, tout ce temps perdu. » On a du mal à recevoir un don gratuit. J'ai fait l'expérience des fois d'avoir au Salon de l'Auto à Paris. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Salon de l'Auto à Paris. Ces grandes manifestations, il faut faire la queue pendant des... Sinon des heures, au moins des dizaines et des vingtaines et des trentaines de minutes. Et il se passe des fois que vous avez quelqu'un qui ne peut pas venir alors que vous aviez déjà acheté des billets et vous êtes prêt à donner votre billet à quelqu'un qui fait la queue. Et vous essayez d'expliquer, est-ce que je peux vous donner ce billet, comme ça vous n'aurez pas à faire la queue. Je vous le donne parce que je l'ai déjà acheté, c'est pas grave, si vous le voulez. Ah non, non merci, non merci. On se dit, c'est flou, il doit y avoir un loup. On se dit, il y a quelque chose de louche. Et puis j'ai commencé à attendre depuis 20 minutes, je ne vais pas gaspiller tout ce temps d'attente, ces 20 minutes d'attente. en recevant tout de suite un billet. Et là, c'est là qu'il va nous dire, c'est par la foi. C'est par la foi, verset 16, on va lire. C'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit, « J'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'est pas à ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. » Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Nous, à l'époque de Paul, et nous, à l'époque où nous lisons maintenant, aujourd'hui, elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes, et qui est ressuscité à cause de notre justification. Il n'a pas douté de cette promesse que Dieu lui avait faite, même si lui et sa femme avaient passé l'âge de procréer. Elle avait eu la ménopause depuis des décennies. Lui, c'était pas brillant non plus. Mais parce que Dieu lui avait promis qu'il aurait un fils et qu'à travers lui, toutes les nations de la terre seraient bénies, il a été déclaré juste. C'est la base de toute justification. J'ai une très belle image pour aider à comprendre ce que la relation entre la grâce de Dieu et la foi. C'est un auteur américain, pasteur Chuck Swindoll, qui a utilisé cette image qui est très parlante. Encore une fois, les images parlent plus que des longs textes. Sur la base de la mort du Christ, le Père céleste s'incline et il tend son bras vers l'homme et lui offre le don du salut. Tatoué sur son bras étendu se trouve le mot « grâce ». Voyez le bras musclé de Dieu, il y a marqué « grâce ». Alors je dis tatouage, hein, mais c'est pas pour vous encourager à vous tatouer le corps, ça c'est une autre chose. Et puis, parmi les individus qui composent l'humanité sur laquelle il se penche, il y en a certains qui lèvent les yeux, la plupart l'ignorent, et continuent à vivre leur vie comme si Dieu n'existait pas. Et ceux-là, ceux qui tournent les yeux vers Dieu, ils tendent aussi leurs petits bras, leurs mains, pour saisir le don que Dieu leur offre. Et sur leurs bras, il y a un petit tatouage. Il y a marqué « foi ». Le bras de Dieu, grâce. Mon petit bras avec mon épaule qui me fait mal, foi. Quand le bras divin de la grâce et le bras humain de la foi se rencontre, il se produit j'aime bien jouer avec les enfants et leur faire ça. Il se produit un transfert de justice. Le salut arrive et un enfant de Dieu est né. Et l'auteur ajoute, le Seigneur ne peut reconnaître aucun autre bras que le bras de la foi. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce merveilleux passage qui nous rappelle que ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par l'observation de rituels, ce n'est pas en obéissant à des lois que nous pouvons recevoir ton amour, ton pardon, ta grâce, être déclarés justes, mais c'est seulement sur la base de la foi. Te faire confiance, croire que tu es le Dieu de l'impossible, que tu peux donner des enfants à un couple qui a 90 ans dépassé, 100 ans dépassé, Seigneur, et tu veux nous rappeler que ce qui n'existe pas, tu peux le faire venir à la vie. Seigneur, peut-être qu'il y a des choses qui sont mortes en nous, peut-être que notre relation avec toi est morte, peut-être que notre mariage est mal en point, peut-être que nos relations avec nos voisins, nos amis, nos parents sont à moitié mortes. Seigneur, toi, tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de l'impossible, tu peux faire renaître, tu peux donner vie à ceux qui n'existaient pas, Seigneur, ceux qui n'existent pas. Aide-nous à grandir dans la foi. Et aussi faible soit-elle, nous savons que c'est ce qui compte, c'est qu'il y ait ce contact avec ta grâce, ton amour infini non mérité. Que cette image, Seigneur, de ce Dieu bienveillant qui tend son bras puissant de grâce vers nous et nous qui n'avons qu'une chose à faire, c'est de répondre en tendant notre bras par la foi, Seigneur, pour devenir enfant de Dieu. Que cette image, elle soit gravée dans nos cœurs, Seigneur, dans nos mémoires. Merci parce qu'elle représente si bien ce que Paul nous décrit dans ce passage. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni. Par le nom de Jésus.